Bonjour à tous. Quel plaisir, quelle joie de vous revoir. Ça fait un certain temps que nous ne nous sommes pas vus. Et vous savez aussi que donc nous sommes partis au Bénin avec Baptiste et Mathurin pour un voyage missionnaire. Et nous allons partager de ce voyage ce matin. Alors c'est vraiment, je me réjouis beaucoup et nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir partager un peu plus de l'œuvre de Dieu avec vous. Parce que c'est vrai que vous avez fait partie prenante de ce voyage, ça c'est certain, par la prière. Personnellement, je n'ai jamais vécu un voyage missionnaire d'une manière aussi paisible, aussi légère. Et ça, c'est une chose, c'est la prière. C'est la prière, c'est le fait d'être envoyé d'une église, d'être envoyé d'une église locale. Et vraiment, c'était si particulier, cette paix et cette sainte présence, même dans les moments un peu plus difficiles, un peu plus compliqués, quand même il y avait des challenges. Et quand même, c'était le calme dans la tempête. Alors un grand merci pour votre soutien, on va suivre avec ça. On avait un groupe de prière où est-ce qu'on mettait un peu des informations, comme une fois par semaine, pour donner un petit peu l'avancement du projet sur place. Donc c'était 3 semaines effectives, et maintenant sur 3 ans, tous les 6 mois, une équipe va repartir pour pouvoir suivre donc les églises de maison qui ont été établies. Mais je rappelle, pour rendre gloire à Dieu, il y a eu plus de 80, plus de 80 baptême, il y a eu plus de 220 conversions, une centaine de guérisons, une centaine de délivrances en 3 semaines. Vraiment, ça, c'est juste, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est sa gloire, c'est sa présence. Et c'est l'Église en prière pour les missionnaires. Ça, c'est également certain. De tout cœur, un super grand merci. Et c'est vrai, le missionnaire est nourri par l'église locale. Il a besoin de l'église locale parce qu'on fait partie d'un même corps. Et lorsqu'il est envoyé, il est envoyé de l'église locale. Le rôle à son retour, autre de ce qu'il y a à faire sur le terrain de la volonté de Dieu, c'est de, à son tour, venir nourrir l'église par ce qu'il a reçu. Et c'est ça aussi qu'on a à cœur ce matin, moi-même, Baptiste et Mathurin, c'est à la fin du culte de prier pour l'Église, de prier ensemble par rapport à ce qui va être partagé, parce que le Saint-Esprit a donné beaucoup. Et c'est pas juste pour qu'on se balade comme ça avec le Saint-Esprit tout seul, c'est pour qu'on puisse le rendre et qu'il puisse être déversé dans l'église locale, parce que c'est un intérieur-extérieur. On est vraiment un seul corps et vous avez participé à ce voyage tout autant que nous, ça c'est certain, pour la gloire de Dieu. On va parler un petit peu plus de la prière. Nous pouvons lancer le PowerPoint, merci beaucoup. Donc, dans la prière, nous exerçons l'autorité que nous avons reçue de Jésus. La prière est puissante. Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit que nous acceptons, que nous recevons, et il fait de nous son temple. Le Saint-Esprit, en nous, nous donne l'autorité de libérer par la parole sa puissance. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous permet par la parole de libérer et de délivrer sa puissance. Alléluia! Vraiment, des fois, comme 2 semaines avant de partir au Bénin, il y a un mauvais esprit qui est venu dans où est-ce que j'habite, et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une visite, si je peux appeler ça comme ça. Et il y a quelques années, vraiment, ça m'aurait fait très peur. C'est quelque chose qui, le monde spirituel me faisait très très peur. Je ne dormais pas les nuits, je faisais beaucoup des insomnies quand j'étais au Sénégal particulièrement. Et alors là, ce mauvais esprit, il entre. Et simplement, j'ai dit non, c'est Jésus qui habite ici. Oh, c'est la maison de Jésus ici. Parce que Jésus habite en moi, c'est Jésus ici. Alors toi, c'est dehors. Il est parti. J'ai pas eu besoin de faire toutes sortes de manières. Juste, j'ai dit, le Saint-Esprit habite ici parce qu'il habite en moi. Ici, c'est Jésus, toi, dehors. Et gloire à Dieu. C'était juste une... je me suis dit, oui, l'autorité est en moi, l'autorité est en nous. Alors, à nous aussi de prendre cette autorité qui est là. Parce que cette autorité est là, oui, mais nous devons la prendre par la foi. C'est comme toute guérison ou délivrance, nous la prenons par la foi. On va en parler plus particulièrement après. Donc, quand je prie avec l'autorité de Jésus, qui est ressuscité des morts, qui vit en moi, l'Esprit de Dieu, qui nous est donné. Quand une seule personne prie, une seule personne qui se joint dans la prière pour une action fait la différence. Chaque prière compte. Chaque prière est entendue de l'oreille de Dieu. Aucune n'est oubliée. Aucune, même pas la plus petite prière dans le cœur, tout doucement, un peu timide, dans le lieu secret de ta chambre. Dieu entend chacune de nos prières. Et lorsque j'étais il y a 5 ans de ça, dans un temps où je prenais des décisions mauvaises pour ma vie, qui n'allaient pas dans le sens de la volonté de Dieu, je me suis retrouvée dans ma chambre un soir, bien consciente de la situation, et j'ai fait une simple, toute petite prière dans mon cœur, mais qui était très sincère. Et j'ai dit, Seigneur, je prends des mauvaises décisions, je prends un chemin qui n'est pas bon, remets-moi, s'il te plaît, sur le bon chemin. Amen. Et croyez-moi, il m'a entendu. Il m'a très bien entendu, même parce que les mois qui ont suivi, je me suis fait baptiser au Sénégal même. J'ai ouvert ma parole, ma bouche, alors que lorsqu'il y avait un temps de prière, toujours je devenais instantanément muette. C'était fermé. J'ai ouvert ma bouche pour chanter, alors que toujours dans les temps de louange, ma parole devenait instantanément muette. C'était comme j'essayais de dire quelque chose, j'essayais de parler, j'ouvrais la bouche même et il n'y a rien qui sortait. Et par cette petite prière faite dans le lieu secret, en étant consciente de ma situation actuelle, Dieu m'a entendue et il a délivré et il a ouvert. Parce que oui, c'était une prière du cœur. C'était une prière qui était calme, qui était timide, mais c'était une prière du cœur. Et il n'est jamais trop tard. J'aimerais dire peut-être, si des personnes ont l'impression que ces temps, ça a été des mauvaises décisions, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et il ne sera jamais trop tard. Après, j'ai un témoignage d'un grand-papa qui s'est fait baptiser là au Bénin. Il avait peut-être comme 85 ans. Vraiment, il n'est jamais trop tard. Donc il y a une puissance dans les prières, aussi courte soit-elle, parce qu'elle est entendue par le Créateur de l'univers. Ne négligeons pas la prière, c'est trop précieux et c'est trop puissant. Il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que même les prières qui sont faites dans le plus grand des calmes ont une puissance et une autorité surnaturelle. Ce n'est pas la personne qui va prier le plus fort qui est le plus spirituel. Ça n'a aucune... comment on dit ? Ça n'a aucun rapport. Oui, merci. Donc, la puissance de la prière à haute voix, la puissance de l'autorité délivrée dans la prière à haute voix, la puissance des chants de louange à haute voix fait trembler les murs spirituels. Et ça, c'est une vérité qui est biblique. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dans les temps qui arrivent, les chrétiens vont devoir se positionner. Les chrétiens vont devoir proclamer la vérité à haute voix et avec des convictions profondes. Proclamer très haut la parole de Dieu et être ancré très profondément dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu parce que le Saint-Esprit n'est pas timide. Il n'est pas timide, il est puissant et victorieux. Paul, dans la lettre aux Romains, nous encourage et il dit « La parole est près de nous, elle est dans notre bouche et elle est dans notre cœur. » C'est la parole de la foi que nous prêchons dans la bouche, délivrée très haut, et dans le cœur, ancré très profondément. Alors, pour les temps à venir, soyons une arme puissante dans les mains de Dieu par la prière. Que nos bouches, que notre prière soit le caillou que David lance sur Goliath. Que notre prière soit le petit caillou que David lance sur Goliath et que notre bouche soit la fronde par laquelle ce petit caillou met Goliath à terre. Amen. La prière est puissante. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu, qu'elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Ça, c'est juste. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu nous dit également que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des dominations dans les ténèbres. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les ténèbres que nous luttons. Et pour cela, nous avons besoin de l'épée qui est tranchante, qui est la parole de Dieu. Et nous empoignons cette épée de vérité. Prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, prophétiquement, empoignons l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, que nous mettons à notre bouche et que nous proclamons. Parce que c'est en proclamant la parole de Dieu, les vérités sur nos vies, par nos bouches, qu'est le même effet qu'une épée qui tranche toute chose. Imaginons-nous la puissance de la prière fervente, avec foi, avec persévérance. J'ai un témoignage, c'est le... à votre gauche, c'est le grand-papa qu'on a partagé l'évangile. On a parlé de Jésus. Il avait, oui, peut-être comme 85 ans ou quelque chose comme ça, peut-être même plus. Vraiment, il était âgé. Il était très attentif à ce qu'on lui partageait. Et quand est-ce qu'on l'a rencontré? Il était assis sur une petite chaise dans le lieu où il habite. Et il ne voyait pas. Il était aveugle. Alors, avec l'équipe, on a prié une fois. Rien. On a prié pour la guérison. Oh, il n'y a rien qui se passe. OK, on prie deux fois. Oh, il n'y a rien qui se passe. OK, on persévère. On prie trois fois. OK, il n'y a rien qui se passe. Mais Seigneur, on prie quatre fois. Oh, je commence à voir un peu quelques formes. OK, on continue. On prie cinq fois. Oh, la dame qui était devant moi, là, je ne la voyais pas avant, mais maintenant je la vois. Ok, alléluia, merci Seigneur, on l'a. Ok, il n'était pas comme complètement voyant, mais quand même ça a créé en lui la foi. Parce que les jours qui ont suivi, il a demandé le baptême, on a raconté qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce que ça représente. Il a dit oui, bien sûr, je veux me faire baptiser. C'était comme, évidemment je veux me faire baptiser. Alors on l'a baptisé. Il était très maigre parce qu'il ne mangeait pas, il n'avait pas l'appétit. Le jour d'après le baptême, on est retourné à sa maison et là, il était avec sa pâte de maïs et il dit « C'est incroyable parce que j'ai faim et ça fait des années que je n'avais pas faim et que je ne mangeais pas. » Et il a commencé à manger. Il dit « C'est fou ça, j'ai vraiment faim et je mange et beaucoup même. » Et en fait, c'est le Saint-Esprit en lui qui redonne la vie. Il était en train de reprendre la vie alors qu'il avait déjà une huitantaine d'années. C'est pour ça que je dis « Mais c'est jamais trop tard. Mais gloire à Dieu. » Et ce monsieur, il a vraiment un impact super important dans le village. Les jeunes viennent le voir, viennent demander conseil auprès de lui. C'est quelqu'un vraiment, gloire à Dieu, il va faire des disciples, c'est certain. Sa vie est consacrée à Jésus, Alléluia, vraiment. Donc la persévérance dans la prière ce matin, une parole du Seigneur te dit, mais essaye encore. Essaye encore parce que ce n'est pas fini. Santé. Essaye encore parce que tout est encore possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui est trop dur pour l'Éternel, sérieusement? Rien. Qu'est-ce qui est trop compliqué pour l'Éternel? Mais absolument rien. J'ai apprécié le témoignage et enseignement de Carly dimanche passé. Il disait, mais Dieu ne dépend pas de nous. C'est nous-mêmes qui dépendons de Dieu et de ce qui est écrit dans sa parole. La parole dit, ils guériront les malades et ils chasseront les démons. Amen. Mais quoi? Parce que ça n'a pas marché une fois, tu vas arrêter. Parce que ça n'a pas marché deux fois, tu vas arrêter. Parce que ça n'a pas marché 10 fois, tu vas arrêter de prier. Sérieusement. Carly a prié pour la guérison de son amie qui avait le cancer et elle est décédée. Allons-nous contester cela? Non. Parce que Dieu est Dieu. Il ne dépend pas de nous. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour que nous devions lui rendre quelque chose en retour? C'est de lui, par lui et pour lui. Notre devoir à nous, c'est de prier jusqu'à ce que, et dans la douceur, dans la sagesse. On ne force pas les choses. Quand Dieu parle, nous l'acceptons. Parce que si une situation est telle qu'elle, c'est pour une raison. C'est pour une très bonne raison. Parce que Dieu est Dieu. Alors à ce moment, nous prions pour la compassion, nous prions pour la consolation, nous prions pour la persévérance, nous prions pour la joie, nous prions pour la foi, de savoir que Dieu est grand, qu'il est puissant. Il y a des situations où on ne comprend pas, vraiment. Il y a des situations où on ne comprend pas. Cette semaine, je reçois un message d'une amie qui est missionnaire. Ça fait 20 ans qu'elle est au Maroc. Et elle me dit, oui, est-ce que tu peux prier pour moi-même? Parce qu'il est arrivé quelque chose à une très bonne famille de missionnaires au Maroc. Et elle me raconte, c'est une famille qui sont retournées au pays pour les vacances, 2 mois, aux États-Unis. Et le papa et les deux garçons, ils sont rentrés avant la maman, avec un petit avion, pour être au Maroc avant elle. Et l'avion a eu un accident. Le papa est décédé. Et les deux garçons sont décédés. Et tu comprends pas parce qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et il y a des situations qu'on comprend pas. Mais Dieu est Dieu. Il est tout puissant. Et toutes choses arrivent pour une raison. Parce qu'il est au-dessus de tout. Parce qu'il a toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il est Dieu. Alors prenons conscience de cette sainteté, ayons cette crainte de Dieu, qu'il est juste Dieu, il est celui qui est. Et nous n'avons pas à contester les choses que nous ne comprenons pas. Nous pouvons prier et continuer de persévérer. Il va recevoir, il entend tout. Et nous prions pour la joie, pour la foi, pour la compassion qu'il fait des choses merveilleuses. Parce que combien de personnes ont été impactées par cette famille au Maroc? Mais des centaines! Mais gloire à Dieu, parce que c'est ces centaines de personnes que nous retrouverons pour l'éternité, avec le papa, avec les deux garçons, et avec tous ces Marocains, anciennement musulmans, qui ont dit oui à Jésus. Qui ont dit oui à Jésus parce qu'ils ont compris que l'importance, c'était l'éternité, c'était bien plus que ce qu'on peut vivre ici sur terre. Il faut qu'on ait cette perspective de l'éternité. Si nous sommes ici, sur terre, c'est pas pour faire des petites affaires ou des petits commerces ou être là et faire des choses qui sont futiles. C'est parce qu'on travaille pour le roi des rois et parce qu'on veut investir dans l'éternité. Alors je prie que nous ayons conscience et que nous reprenions conscience ce matin que Dieu est grand et qu'on est seulement pour un petit bout de temps ici. Et on doit comprendre aussi, c'est quoi notre travail ici? Parce que l'objectif, c'est l'éternité et c'est de prendre le plus de frères et sœurs possible avec. Parce que Dieu aime le peuple musulman. Dieu aime les musulmans de tout son cœur. Il veut les sauver, c'est certain. Il les aime et ils sont à ça. Ils sont tout proches. Ils sont tout proches, je vous assure. Et ils sont tellement ouverts. Au Bénin, c'est pas partout la même chose. Mais ils sont tout proches. La vérité est trop proche. Alors, nous avons besoin de persévérer dans la prière et de prier jusqu'à ce que Anne est une femme de prière que nous rencontrons dans la Bible, dans 1 Samuel. Elle est un exemple de femme persévérante dans la prière. Elle est l'épouse d'Elkana, un homme de la tribu de Lévi, habitant à Rama en Israël. Et elle est la maman du prophète Samuel. Ok. Donc Elkana, il avait deux femmes, Pénina et Anne. Peut-être vous connaissez le texte qu'on va prendre ensemble, certainement même. Tous les années, Elkana monte pour offrir des sacrifices à l'Éternel, tous les ans. Et tous les ans, c'est la même histoire, parce que Pénina a eu des enfants de Elkana, mais Anne n'en a pas eu aucun. Elle est stérile, rien. Tous les ans, c'est la même histoire. Pénina se moque de Anne. Elle dit, toi, tu n'as pas eu d'enfants. Dieu ne t'aime pas. Toi, c'est, ah, tu vois, moi, j'ai tellement d'enfants et toi, tu n'as rien. Et ça rend Anne très triste. Je comprends bien. Anne est très triste de ça. Mais elle a une foi profonde en elle qui va découler une prière. Elle va dire, elle va faire un vœu même. Ce n'est pas juste une prière. Oh, Seigneur, donne-moi un enfant, s'il te plaît, parce que j'ai besoin, j'ai envie d'un enfant. Elle va dire, elle va faire un vœu, elle va dire « Éternel, Seigneur des armées célestes, elle reconnaît qui est Dieu. Si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je le consacrerai pour toute sa vie. » Imagine, je le ce que tu me donnes, en fait je te le demande, mais c'est pour toi. Je te le consacre à toi pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Imaginons ça. Je demande quelque chose de très précieux, mais c'est pour toi, Seigneur. Prends tout, parce que toi, tu es le roi des rois. Et quand elle prie ça intensément dans son cœur, elle bouge un peu les lèvres. Ce n'est pas une prière qu'elle va comme ça proclamer à haute voix. Et il y a Élie, le prêtre, qui est là. Et lui, il voit un peu les lèvres mieux comme ça et il dit « Oh !» Toi, madame, peut-être il faut aller décuver ailleurs. Et Anne, elle dit non, avec tout le respect que je vous dois. Je ne suis pas ce genre de femme. Je prie l'Éternel. Je suis tellement triste, je déverse mon chagrin devant lui. Et je prie. Et j'ai fait cette prière. Et Élie, alors, il dit comme que l'Éternel fasse selon, que l'Éternel fasse selon sa volonté. Dans le chapitre 20, nous lisons que Anne est tombée enceinte dans l'année. Dans le cours de l'année, Anne fut enceinte. Elle mit au monde un garçon qu'elle appela Samuel. Dieu a entendu, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Anne consacre alors son enfant à Dieu. L'année qui suit, Elkana retourne pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Et elle dit, Anne, est-ce que tu prends Samuel avec et on y va? Elle dit non, attends. D'abord, je vais attendre de le sevrer. Et quand il sera sevré, moi-même, j'irai offrir Samuel. Et il restera là-bas. Et c'est ce qui se passa. Elle dit, à mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel, Samuel, pour toute sa vie. Il lui sera consacré. Elle a respecté le vœu qu'elle a fait. Et là-dessus, il se prosterne devant l'Éternel. Alors les prières qui plaisent à Dieu sont celles qui le glorifient. Père, au nom de Jésus, afin que tu sois glorifié, cette personne est guérie. Dans la guérison, rien ne nous revient. Nous cherchons la gloire de Dieu pour Dieu. La glorification de Dieu par la guérison. Dans la délivrance, rien ne nous revient. Nous cherchons la gloire de Dieu pour Dieu. la glorification de Dieu par la délivrance. La délivrance et la guérison nous sont données, mais par-dessus ça encore, ce qu'on recherche, c'est la glorification de Dieu. Donc plus haut même que la guérison ou la délivrance, ce que nous cherchons, c'est la gloire de Dieu. C'est la glorification de Dieu, parce que plusieurs chemins glorifient Dieu. Il y a des guérisons, ça prend du temps. Il y a des délivrances, ça prend du temps. Parce que le Saint-Esprit n'est pas systématique. Le Saint-Esprit est vivant. Il n'est pas timide. Et il n'est surtout pas systématique. Surtout pas. Il ne fait jamais rien comme d'habitude. Tu peux être sûr que tu as l'habitude de prier d'une certaine manière, ça a marché 2-3 fois, la personne c'est bon. La 4e fois, il va faire autrement. Il y a des guérisons, ça prend du temps. Parce que le Saint-Esprit n'est pas systématique. Mais nous recherchons la gloire de Dieu par-dessus toute chose. Parce que nous savons que prochainement, tout bientôt, nous serons dans l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ, totalement renouvelé, pur, saint, sans tache. Anne a été persévérante dans la prière. La stérilité de Anne, c'est aussi une métaphore concernant le peuple d'Israël à ce moment-là, par rapport à la sécheresse. La parole de Dieu donnée ne porte pas de fruit dans le peuple d'Israël à ce moment-là. Et c'est seulement par une action divine que le peuple d'Israël peut trouver une issue. Et cette issue, Anne l'a pris, et c'est Samuel qui naît. Samuel est étonnant, il est un prophète. Il dormait une fois dans le sanctuaire. Et là, Dieu l'appelle, quand il a un peu grandi, n'est-ce pas ? Et il dit « Oh Samuel, Samuel !» Oh, Samuel se lève, et il court, il va voir Élie. Élie dit « Oui, est-ce que tu m'as appelé ?» Et Élie dit « Ok, je ne t'ai pas appelé mon garçon, tu peux aller dormir encore ?» Ok, c'est bon. Une deuxième fois, l'Éternel il dit « Oh Samuel, Samuel !» Samuel se lève, il court « Oh Élie, tu m'as appelé, je suis là !» « Oh non mon garçon, je ne t'ai pas appelé, tu peux retourner te coucher !» Ok. Une troisième fois. Samuel, Samuel. Ok. Élie, il comprend que c'est l'Éternel qui est en train de parler à Samuel. Parce que c'était tellement plus courant dans cette époque-là. Il n'y avait plus de révélations, il n'y avait plus de... L'Éternel donnait rarement à cette époque-là des directions, des directives. Il se montrait peu. Et pour Élie, c'est pour ça, il n'a pas compris tout de suite que c'était l'Éternel. Et après, il a compris, il a dit « Ah ok, c'est l'Éternel. Ok mon garçon, on va faire quelque chose maintenant. La prochaine fois que tu vas l'entendre, parce que Élie savait qu'il y aurait une prochaine fois, tu vas dire « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Alors, comme les autres fois, l'Éternel se mit à côté de Samuel et il l'appela. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, je vais faire quelque chose de nouveau en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. Le matin, Élie demande à Samuel, alors, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit ? Raconte-moi tout, je veux tout savoir. Il raconte, ce n'était pas vraiment des choses qui sont réjouissantes d'un premier abord, mais Élie a dit que la volonté de l'Éternel soit faite, car il a parlé. L'Éternel était avec Samuel et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Tout ce qui sortait de la bouche de Samuel, la parole de Dieu dans la bouche de Samuel, tout ce qui sortait, il n'y a rien qui faisait aucun effet. Tout avait un impact. Toute parole que Samuel partageait avait un impact. Dieu se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. Le prophète, par qui reçoit-il ? Le Saint-Esprit, non ? Le prophète reçoit du Saint-Esprit. Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre ? Non. Vraiment. Et Dieu désire répandre son esprit sur toute chair. Le prophète Joël dit, je répandrai mon esprit sur toute chair de la part de Dieu. Hein. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu n'a que des fils et des filles. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a pas de petites-filles. Alors qui est-ce que ça concerne ça ? Ça concerne tout le monde. Ça concerne absolument tout le monde. Ne comptez pas seulement sur la jeunesse. Comptez sur la jeunesse. Mais ne comptez pas seulement sur elle, parce que ce n'est pas fini, parce que ce n'est pas le moment de se relâcher maintenant. Comptez sur la jeunesse. Vraiment, gloire à Dieu. On compte, encore pour les plus jeunes, on compte. Mais quand il dit vos fils et vos filles, c'est tout le monde, parce qu'on est tous fils et filles de Dieu, parce que Dieu n'a pas de petits-fils et de petites-filles. Amen. Nos vieillards auront des songes. Le papa, avant, là, il avait déjà eu des songes et il aura encore au nom de Jésus. Et vos jeunes gens, des visions. Amen. Alors j'aimerais dire aux esprits prophétiques qui sont ici, mais prophétisez, prophètes, mais prophétisez, mais vraiment. Et les personnes, peut-être, elles ne savent pas trop, ok, par rapport à tout ça, où est-ce qu'on est, c'est pas grave, on est en chemin, on est ensemble. Mais prophètes, prophétisez de tout cœur, vraiment. C'est le temps d'être attentif le jour, la nuit, le jour. C'est le temps de recevoir. Et peut-être il y a des personnes aussi, vous receviez beaucoup. Ah, vous receviez tellement, il y a des années, vous receviez des visions, vous marchiez un pas après l'autre par des songes. Mais Dieu veut ranimer ce feu en vous. Mais Dieu veut ranimer ce don d'espérance qui passe par les dons prophétiques. Dieu veut relever ça, il veut donner encore, il veut donner même plus. Alors si c'est nous-mêmes qui avons éteint ce don, parce que ça arrive, pour moi des fois c'était trop. J'ai éteint et j'ai dit, mais Seigneur, mais je suis désolée, mais pardonne-moi. Vraiment, ça c'est une grosse bêtise. C'est nul. Ouvre les vannes. Vraiment. Alors, on doit aussi se repentir si nous-mêmes on a fermé ça. Si nous-mêmes on a mis des loquets, on a mis des verrous, parce que je ne sais pas, quelqu'un a dit quelque chose sur ce qu'on a dit. Parce qu'on était hors du cadre. Mais allez-y, hein. Vraiment. Et je voudrais aussi dire quelques mots par rapport à ça et par rapport au témoignage qu'on va avoir de Mathurin et de Baptiste, par rapport aux guérisons, aux dons de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit donne à chacun, mais il ne donne pas tout à la même personne. Il y a tellement une diversité de dons pour les miracles, voilà, la guérison, délivrance, les dons prophétiques, les paroles de connaissance. C'est tellement varié. Mais ajoutez aussi que dans cette liste, on sait aussi que tous ne sont pas des enseignants, tous ne sont pas des prophètes, tous ne sont pas des apôtres. Et j'aimerais juste ajouter quelques précisions concernant les prophètes qui sont ici. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je dis ça parce que Dieu veut donner beaucoup. Dieu veut donner énormément. Et si nous recevons et si nous acceptons ce don et cette vague qui veut nous inonder, on va avoir besoin de beaucoup d'ordre. Parce que beaucoup de dons demandent beaucoup d'ordre et beaucoup de sagesse. Et on a besoin de beaucoup d'ordre. Cette image vaut mille mots. C'est pas parce que tu entres dans une place que c'est la tienne. Non. Chacun a sa place. Soyez conscient que chacun a sa place ici présent. Il n'y a personne qui est oublié, comme dans le fait que toutes nos prières sont entendues. Tout le monde a sa place. Mais ayons la sagesse aussi de savoir si on fit dans quelque chose qui n'est pas... qui n'était pas prévu par Dieu, ok? Je dis ça par rapport à l'ordre. On a besoin d'ordre. Dieu ne va pas envoyer son esprit si l'Église manque d'ordre déjà. Dieu est très conscient de ce qu'il fait. Nous devons prier pour l'ordre, pour la sagesse et pour les dons. Vraiment qu'il puisse ranimer ce don. Alors soyons sages. C'est Dieu qui donne, qui crée en nous le désir de plus, la soif de plus. Peut-être je partage comme ça. Et c'est... Oh, moi, j'ai pas trop envie de tout ça. C'est oh, un petit peu beaucoup. C'est juste... C'est pas mon truc, moi. Oh. comme ça. Il faut prier que Dieu, même par son esprit, te donne le désir de plus et la soif de plus. C'est Dieu qui crée dans les cœurs le désir de plus, le désir et le faire. Et si moi-même, ça m'arrive hein, de dire, bon, là, j'ai assez. Oh, non! Parce que le Saint-Esprit veut déborder en nous, déborder d'une manière puissante, mais dans la sagesse, dans la douceur. C'est pas quelque chose qui va faire peur. C'est quelque chose qui est joli, c'est quelque chose qui est doux. C'est pas quelque chose qui est... On lance les armes et il y a des pics partout. Et... Des fois, c'est comme ça, mais pas toujours. Vraiment. Et j'invite Mathurin à nous partager le témoignage qu'il a du Bénin et Baptiste aussi.